Michée 6, 1 à 8. Alors Michée, c'est un petit prophète, on ne le lit pas très souvent, mais c'est à la fin de l'Ancien Testament. Michée 6, chapitre 6, versets 1 à 8. C'est bon, vous êtes tous arrivés? Sinon, aidez votre voisin. Michée 6, 1 à 8. Écoutez, je vous prie, ce que dit l'Éternel. Accuse devant les montagnes que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, l'accusation du Seigneur. Écoutez, immuable fondation de la terre. Car le Seigneur accuse son peuple. Il est en litige avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter d'Égypte, je t'ai libéré de la maison des esclaves et j'ai envoyé en avant devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Mon peuple, souviens-toi, je te prie, de ce que projetait Balak, roi de Moab, et de ce que lui a répondu Balaam, fils de Béor, depuis Chittim jusqu'au Gilgal, afin que tu saches ce que le Seigneur fait pour la justice. Avec quoi me présenterai-je devant le Seigneur? Avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu d'en haut? Me présenterai-je avec des holocaustes? Avec des taurillons d'un an? Le Seigneur agréera-t-il des milliers de béliers? Des dizaines de milliers de torrents d'huile? Donnerai-je mon premier-né pour ma transgression? Donnerai-je le fruit de mon ventre pour mon propre péché? Il t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bon. Et qu'est-ce que le Seigneur réclame de toi, si ce n'est que tu agisses selon l'équité, que tu aimes la fidélité et que tu marches modestement avec ton Dieu?
Bonjour à tous et merci beaucoup Samuel pour la lecture du texte. Et peut-être que ce texte, ça vous parle un peu parce que j'avais eu l'occasion de le partager dans une petite méditation un mardi. Et j'ai cru convenable parce que ça m'a beaucoup frappé personnellement d'aller un peu plus loin et de préparer un message pour ce matin pour partager avec vous. Et comme Samuel le disait, ce n'est pas un prophète parmi les plus célèbres. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé le texte. C'est vrai qu'on le lit pas très souvent, c'est ces livres-là. Et qui c'est qui c'était le prophète Michée? On le sait déjà, quelqu'un? C'était quelqu'un de contemporain du prophète Ésaïe. C'est lui, je pense qu'on le connaît un petit peu mieux. Qui a vécu environ les années, bon, le siècle 8 avant de Christ. Donc, à cette époque-là, déjà, le peuple d'Israël, donc Israël était divisé en deux royaumes. Vous savez, le royaume du nord, le royaume d'Israël, avec capitale à Samarie, et le royaume de Juda au sud, avec capitale à Jérusalem. Donc c'était dans ces contextes-là où le prophète Michée a écrit et ces livres-là. Et j'ai choisi ces textes-là parce que ça me paraît très intéressant, parce que ça répond à une question, je pense que c'est parmi les questions top des chrétiens. Et c'est une question, vous me direz si ce n'est pas le cas, mais je pense que c'est une question que tout le monde, tous les chrétiens, tous les croyants s'est posé une fois ou une autre. On s'est posé. Et c'est, qu'est-ce que l'Éternel attend de moi? Qu'est-ce que veut Dieu de moi? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Vous l'avez déjà demandé? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Je pense qu'on s'est tous posé cette question une fois ou une autre. Et qu'est-ce que Dieu veut de moi? Parce que parfois, on le prie, on le cherche, on demande au Seigneur de nous montrer qu'est-ce qu'il attend de nous. Et après, on cherche la réponse un peu au nuage. On attend que l'Éternel vienne à travers un rêve. Il peut le faire, hein? Mais parfois, on ne cherche pas dans sa parole et il dit déjà qu'est-ce qu'il attend de nous. Et dans ces textes en particulier, il le dit. Il dit très clairement, si vous avez fait attention, il y a trois choses qu'il attend de nous et il le dit très clairement. On va le voir dans ces textes. Et un peu aussi, j'aime bien ces textes parce que le contexte social de l'époque où c'était écrit, c'est très semblable à notre contexte. Si vous voyez, on va faire un parcours très rapide de quelques versets en particulier de ce livre. On va voir que c'était un contexte très semblable. Il y avait le peuple, un peuple qui se disait fidèle à Dieu, qui s'était éloigné complètement de Dieu. Il y avait les gens qui avaient du pouvoir, qui méprisaient le peuple. Il y avait aussi le juge qui pratiquait pas la justice, qui s'était éloigné. Il y avait de la corruption au niveau politique. Il y avait aussi même la corruption dans l'Église. Bon, c'est pas l'Église comme on l'entend aujourd'hui, mais les sacrificateurs et les prophètes à l'époque, ils étaient aussi corrompus. Et ça me rappelle un peu à ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? On voit la corruption qui existe au niveau politique. On voit aussi au niveau judiciaire aussi la corruption qu'il y a, et même malheureusement dans l'Église, hein, l'Église qui se dit chrétien et qui est là juste pour se faire de l'argent, on peut le dire clairement, je pense. Et on voit que cette corruption a arrivé aussi au monde de l'Église à nos jours. On va voir juste quelques versets pour vous montrer ça, pour entrer un peu plus dans le contexte. Donc par exemple, chapitre 3 des Michée, versets 1 au 3, je vais le lire, vous, si vous voulez me suivre. Chapitre 3, versets 1 au 3. « J'ai dit, écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous à connaître la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessous les os. Ils dévorent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau et lui brisent les os. Ils le mettent en pièces comme ceux qu'on cuit dans un pot. » C'est assez fort les mots de l'Éternel à travers du prophète Michée. Donc ça, on voit par rapport aux gens qui avaient du pouvoir, aux politiciens, mais aussi par rapport aux juges, versets 9 et verset 10 de ces mêmes chapitres 3. « Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice, ceux qui devaient faire justice, pratiquer la justice, ils avaient en horreur la justice, et qui pervertissaient tout ce qui est droit. » Mais aussi, comme je disais, la corruption, elle était arrivée au niveau des sacrificateurs et des prophètes. Verset 11, il est écrit, de ce chapitre 3, « Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel, ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous ?» Est-ce que ça vous rappelle un peu à notre société, n'est-ce pas? Malheureusement, on n'a pas beaucoup changé. On est dans une société qui se disait, et qui se dit toujours un peu, hein, il y a certains pays plus que d'autres, mais qui se disent toujours des sociétés, des pays chrétiens, mais qu'on est très loin de la réalité que le Seigneur attend de nous. Et c'est dans ces contextes où se trouve ce chapitre 6 qui a été lu par Samuel. Et c'est là où l'Éternel dit, j'ai un litige. C'est très fort ces mots-là. Je ne sais pas en français, en espagnol c'est très très fort. Je pense en français c'est pareil, vous me direz. J'ai un litige contre vous. J'ai un litige, j'ai plainte. Ma version, elle dit, j'ai plainte contre vous, contre toi, contre son peuple. C'est assez fort. Hein. L'Éternel est vraiment fâché et il leur rappelle au peuple tout ce qu'il a fait pour eux. Il dit, je vous ai sorti d'Égypte, de l'esclavage d'Égypte. Je vous ai mis des personnes pour être au milieu de vous, pour vous aider à chaque instant. J'ai fait plein de choses. Il parle de l'exemple de Balak et Balaam. Je ne veux pas l'expliquer si quelqu'un veut le lire. C'est très intéressant. Mais l'idée, c'est que l'Éternel leur rappelle tout ce qu'il a fait pour eux, pour ce peuple qui était en Égypte, qui était à l'esclavage en Égypte et qui est sorti de l'Égypte pour avoir sa propre terre. Et puis le peuple, son peuple, il a tourné le dos au Seigneur. Et c'est un peu ce qui nous arrive aussi aujourd'hui à nous-mêmes, n'est-ce pas? Dieu nous a sortis de notre propre Égypte. On était sous le péché. Il nous a sortis de notre propre Égypte. Et combien de fois on lui tourne le dos au Seigneur. Et il nous rappelle ce matin que tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il continue à faire, et c'est pour ça qu'il dit, qu'est-ce que j'attends maintenant de vous? J'ai fait plein de choses, mais aujourd'hui, je suis plus content avec toi. Et du coup, qu'est-ce qu'il attend, le Seigneur, de nous? Ça, on le trouve dans le verset 6, 7, 8. Il commence, c'est très marrant la façon dont il expose ça, parce qu'il commence avec un certain nombre de questions, le prophète, au verset 6 et 7. Il dit, c'est comme s'il s'est placé dans la peau de, du peuple, de quelqu'un qui est dans le peuple et qui ne sait pas quoi faire pour le Seigneur. Il dit, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des vodanins? Et il fait un certain nombre de questions. Est-ce qu'il faut que je fasse des sacrifices? Est-ce qu'il faut que je donne mon premier-né? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et l'Éternel dit, verset 8, on t'a fait connaître, ô homme. C'est un peu comme dire, mais c'est, je te le redis encore, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et qu'est-ce que l'Éternel demande de toi? Il y a trois choses. C'est que tu pratiques la justice, c'est la première chose que l'Éternel demande de son peuple. Que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On voit trois choses que l'Éternel attendait de son peuple. C'est sûr qu'il attend aussi des sacrifices de nous. C'est sûr qu'il attend des offrandes. C'est sûr. Mais si on n'a pas ça, si on n'a pas ces trois choses, ça ne sert à rien de faire des sacrifices, ça ne sert à rien de présenter des holocaustes. Et c'est ce qu'il a dit au peuple à cette époque-là, et c'est ce qu'il nous dit et qu'il nous rappelle aujourd'hui. Donc trois choses, et on va voir une par une ces trois choses, ces trois aspects qui sont demandés par l'Éternel, qu'il nous demande à nous. Première chose, c'est pratiquer la justice. Dans la version espagnole, on dit, s'écrit, et faire justice. Et je pense que ça peut se dire aussi en français, faire justice, n'est-ce pas? Et c'est assez intéressant cette expression-là parce que, et je sais pas vous, mais en Espagne, dans les journaux télévisés, c'est une des expressions qui apparaissent la plus. Pratiquer, bon, faire justice. Il y a, je sais pas, je mets un exemple. Il y a un crime qui a été commis et il y a les parents qui, dans l'enfant qui s'est fait assassiner malheureusement, il y a les parents qui sortent et qui demandent au juge qu'il fasse justice, n'est-ce pas? Il y a, je sais pas, une grève d'employés d'une entreprise qui veut licencier tous les employés et il demande qu'on fasse justice. C'est une expression qu'on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup à nos jours. Et on le demande. Et on se pose même la question, on demande même à Dieu, quand on prie, ça c'est très marrant, on dit Dieu, fais justice, sois juste. On lui demande même à Dieu. Et même dans le peuble d'Israël, à Malachi, si vous lisez, Malachi 2, 17 à la maison, vous verrez que même le peuple parfois doutait de la justice de Dieu et demandait à Dieu, mais c'est où ta justice? Elle est où ta justice? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous douter de la justice de Dieu et de lui demander à Dieu qu'il fasse justice? Ce qui est marrant, c'est que ici, c'est complètement le contraire. J'ai jamais vu un juge en Espagne qui apparaît à la télé qui demande au peuple de pratiquer la justice, de faire justice. Est-ce que vous l'avez déjà vu? C'est bizarre, hein? Un homme politique qui sort à la télé pour dire « Faites justice, pratiquez la justice », parce qu'on dit que la justice, c'est pour le juge, c'est pour les politiciens, c'est à eux d'être juste. Et on demande ça. Pourtant, ici, dans ces textes, c'est l'autorité, c'est le juge, c'est Dieu qui demande au peuple, qui nous demande à nous de faire justice, de pratiquer la justice. Et c'est assez extraordinaire ça, parce que ça nous montre la condition de l'être humain. On est vraiment égoïste. On regarde à côté, on regarde ceux qui sont autour de nous, on demande que la justice soit faite. On leur demande de faire justice, de pratiquer la justice. Mais on pense que c'est pas à nous de faire ça. Pourtant, c'est bien écrit ici que c'est Dieu qui nous demande à nous de faire justice, de pratiquer la justice. Et alors, il faut arrêter de demander à Dieu qu'il soit juste, parce que Dieu, par définition, il est juste. Si on lit Deutéronome 32, verset 4, si vous voulez tourner votre Bible avec moi, Deutéronome 32, verset 4, c'est écrit, « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. » Il est juste et droit. Il est juste. Il est juste. Donc, on doit arrêter de se poser la question et de demander à Dieu qu'il fasse justice, parce qu'il va le faire dans sa justice. Vous le voyez bien. C'est pas dans notre justice aussi, parce que ça c'est rien de sujet. Mais c'est à nous de faire justice. C'est à nous de pratiquer la justice. Et c'est ce qui est demandé. C'est ce qui est demandé par Dieu. Et peut-être vous dites, bon, ça a été écrit il y a maintenant plus de 10 siècles. Bon, est-ce que c'est toujours d'actualité? Parce que on dit que on est sauvé par la grâce, on n'est plus sous la loi. Donc, est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'il faut pratiquer la justice aujourd'hui? Bah, si on tourne nos Bibles à Matthieu 6, on verra que Jésus a demandé à ses disciples, et donc du coup, il nous a demandé à nous-mêmes de pratiquer la justice. C'est un texte sur lequel on a médité ce mardi aussi. C'est un texte qui nous parle des choses qui inquiètent l'être humain, des choses matérielles, de la nourriture, de ce qu'on va boire, des vêtements. T'avais les disciples à l'époque de Jésus qui étaient inquiétés pour tout ça. Et Jésus, il leur a dit, ne vous inquiétez pas de ça, mais cherchez d'abord quoi ? Le royaume de Dieu et sa justice. Jésus même nous demande de chercher d'abord la justice de Dieu. Et du coup, donc, c'est clair qu'il faut le faire. Dieu l'a demandé à son peuple. Jésus le redemande, confirme ce que Dieu a demandé à son peuple. Il faut pratiquer, il faut chercher la justice de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que pratiquer la justice ? Qu'est-ce que c'est que pratiquer la justice ? Bon, pour cela, il faut d'abord connaître la justice de Dieu, connaître la loi de Dieu. Si on ne connaît pas ce qui est dans la parole de Dieu, on ne va pas savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est juste pour Dieu, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est péché et qu'est-ce qui ne l'est pas. On ne va pas pouvoir différencier qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas. On ne va pas pouvoir pratiquer la justice. Pour chercher et pratiquer la justice de Dieu, d'abord, c'est une condition sine qua non, connaître la loi, connaître la parole de Dieu. Deuxième aspect, deuxième chose qui est demandée par l'Éternel dans ce texte, c'est aimer, je vais le lire littéralement, aimer la miséricorde. Aimer la miséricorde. Et qu'est-ce que ça veut dire, miséricorde ? Vous le savez ? J'ai dû chercher parce que c'est pas, on l'utilise beaucoup, on croit peut-être savoir, mais c'est intéressant de chercher la racine de ces mots-là, parce que si on voit dans le latin, dans le mot latin d'où ça provient, le mot il est décomposé en deux mots différents. D'abord misère, misère et cordis. Misère ça veut dire misère, on comprend tous ce que c'est que la misère. Et cordis c'est cœur, ça veut dire cœur en latin. Donc la miséricorde c'est la capacité, l'habilité de voir les misères des autres, la misère de quelqu'un qui est à côté de nous, et de le prendre sur nous-mêmes, dans nos cœurs, et de le faire propre à nous. Ça c'est la miséricorde. Donc, aimer la miséricorde, c'est aimer voir la souffrance de quelqu'un qui est à côté de moi et de prendre ça comme si c'était ma propre souffrance et d'agir en conséquence. Ça, c'est la différence de la miséricorde et la pitié ou la peine, parce que la peine, c'est... On a de la peine pour quelqu'un, c'est juste... Ah, regarde, ça me tient à cœur, mais je m'arrête là. Je ne prends pas comme si c'était ma propre souffrance. Mais la miséricorde, ce qui est demandé ici par l'Éternel, c'est de prendre à cœur la souffrance des autres et d'agir en conséquence. C'est difficile, n'est-ce pas ? On dit qu'on a... Et on en a je ne sais pas s'il y a une expression en français, mais qu'avec notre propre souffrance, on en a déjà assez comme pour prendre la souffrance des autres. En espagnol, on dit ça. Bon, il y a une expression qui est utilisée. Mais ici, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Il nous demande d'être attentifs aux autres et de prendre la souffrance des autres et d'agir comme si c'était notre propre souffrance. Et il y a un texte à Matthieu 18, une parabole qui est expliquée par Jésus, Matthieu 18, du verset 23 jusqu'au 35, qui est très intéressant parce que vient illustrer exactement ce que c'est la miséricorde. C'est la parabole de roi qui avait des serviteurs, vous vous en souvenez, et qui un jour, il a rendu compte à ses serviteurs, il leur a demandé... tout ce que eux devaient payer à son roi. Et du coup, il a pris un serviteur qui lui devait beaucoup d'argent à l'époque. Et son serviteur lui a dit, je n'ai rien. Et bon, il lui a demandé de vendre sa femme, lui-même, ses enfants pour payer sa dette. Et lui, il s'est prosterné, son serviteur, il a dit, je peux pas te payer, je n'ai rien. Aie patience avec moi. Et le roi, il dit le verset 27 de ces chapitres 18 de Matthieu. Ému de compassion, il a eu miséricorde par son serviteur. Il l'a laissé aller, il l'a remis sa dette. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec ses serviteurs ? Il est parti content parce que voilà, le roi l'a laissé partir. Il a retrouvé un de ses compagnons et qui lui devait aussi à ses serviteurs et qui lui a dit bah je veux te payer plus tard mais je peux pas. Il a dit bon je te mets en prison jusqu'à ce que tu me payes ta dette. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Vous voyez, Dieu leur a eu miséricorde. Dieu était ému en compassion envers son peuple qui a vu qu'il souffrait en Égypte. Il l'a libéré de l'esclavage. Il l'a sorti d'Égypte. Il a donné une terre. Et puis son peuple, vite fait, a oublié et a commencé à mépriser ses propres frères et sœurs qui était à côté. Et ce n'est pas ce qui se passe aussi aujourd'hui avec nous. Dieu nous a libérés de nos péchés, il a eu miséricorde pour nous, il a vu comme on était éloigné de lui, et il a eu miséricorde, il a envoyé son propre fils pour prendre la souffrance du péché que nous avions sur nous, et il a pris sur ses épaules, il nous a pardonné, il a eu miséricorde, et nous, on oublie vite ça aussi. Et nous, on voit la souffrance qui est à côté de nos frères et sœurs et des personnes qui sont pas croyants. Il y en a du mal à pratiquer la miséricorde, même si Dieu la pratique avec nous. C'est un peu dur, c'est le message peut-être de ce matin, mais je pense que c'est bien de nous rappeler de tout ça. Et Dieu, il va encore plus loin, parce qu'il nous demande d'aimer la miséricorde. Donc c'est pas juste pratiquer, mais aimer la miséricorde. Mais ce qu'il nous demande, ce n'est pas quelque chose qu'il ne fait pas, parce qu'on a dit déjà qu'il a aimé, s'est donné pour nous. Mais il dit encore, c'est encore plus fort, le verset 19, 18, la fin du verset 18, du chapitre 7 des Michées, donc Michées 7, la fin du verset 18, dit que Dieu prend plaisir à la miséricorde. C'est encore plus fort qu'aimer. Il prend plaisir à pratiquer la miséricorde. Michées 7, chapitre 18, juste la fin du chapitre. Pardon, chapitre 7 de Michée, verset 18, la fin du verset 18. Car il prend plaisir à la miséricorde. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Et donc la question, c'est est-ce qu'on sait souffrir avec ceux qui souffrent? Est-ce qu'on aime souffrir? Ou est-ce qu'on l'évite? Si on voit quelqu'un qui souffre, on dit, je ne vais même pas lui poser la question, comment ça va, parce que ça va tomber sur moi. Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on n'aime pas, est-ce qu'on ne s'en souvient pas de ce que Dieu a fait, de la miséricorde qu'il a eue pour nous? Troisième aspect, troisième chose que Dieu nous demande ce matin, que Dieu il a demandé à son peuple et que Dieu nous demande, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Et qu'est-ce que c'est que marcher humblement avec Dieu? Qu'est-ce que c'est que l'humilité? Qu'est-ce que c'est que s'humilier? Parce que pour marcher humblement, il faut s'humilier. Qu'est-ce que c'est que s'humilier? Ça, c'est quelque chose qui, d'abord, ça m'a frappé un peu, parce que l'humiliation, c'est... J'ai fait une recherche sur Internet, j'avais fait à l'époque, quand j'avais préparé un peu la méditation pour un mardi, et l'humiliation, quand je cherchais sur Google, je voyais que toutes les nouvelles qu'il y avait, ou tout le lien qu'il y avait vers des sites Internet qui parlaient de l'humiliation, c'était comment quelqu'un avait humilié quelqu'un d'autre. Donc c'était quelque chose de très négatif, c'est pas quelque chose de positif. Bon, a priori, ça ne se voyait pas comme quelque chose de positif. Pourtant, le Seigneur nous demande de nous humilier. Mais si ce n'est pas positif, pourquoi il nous demande de nous humilier? C'est bizarre, non? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'humiliation, bon, déjà, qu'est-ce que c'est? Le dictionnaire dit que c'est incliner notre face et plier notre corps, donc notre genou, par exemple, en signe de soumission et d'obéissance envers quelqu'un. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'humiliation peut être faite de manière forcée ou volontaire. Et c'est là qui se fait la différence. Quand on s'est fait humilier, c'est là qui est négatif, parce qu'on n'aime pas, personne n'aime se faire humilier pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Mais Dieu ne nous dit pas que je veux t'humilier pour que tu marches humblement avec moi. Dieu dit, je veux que tu t'humilies de façon volontaire. Je ne veux pas te faire humilier, je veux que tu le fasses, que tu décides de t'humilier. Et du coup, la signification de ce mot qui qu'on pourrait dire semblait négatif change complètement, parce que est-ce que c'est pas une joie de incliner notre face et nous plier en face de quelqu'un qui est le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a créés, celui qui a tout donné? Ça change complètement la perception et la définition de ces mots humilier. Donc Dieu nous demande de nous humilier devant lui, devant sa face, pour marcher humblement avec lui. Et du coup, la question qui se posait, c'est, et comment faire ça? Parce que c'est pas dans la nature de l'être humain de s'humilier. On est tous à plusieurs niveaux, mais on est tous un peu orgueilleux, n'est-ce pas? On est tous un peu, on doit l'avouer. Et c'est compliqué, naturellement, on va pas s'humilier. C'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le processus à suivre pour arriver à l'humiliation? Et vis-à-vis ou en face de Dieu. Bon, je l'avais coupé en deux phases, ces processus-là. D'abord, il faut une phase qui soit centrée sur moi. Il faut nous centrer sur nous-mêmes pour comprendre, pour analyser et pour comprendre quelle est notre condition. Et pour arriver à faire propre les paroles qui sont écrites dans Romains 3, si vous voulez bien tourner votre Bible. Romains 3, verset 10 au 12. Donc Romains chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 12. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et quand ici il dit aucun, il y a nul, c'est moi non plus, hein, et toi non plus. Donc il faut arriver à comprendre ça pour arriver à s'humilier. C'est la première phase. Il faut comprendre quelle est notre condition et qu'on a besoin de Dieu. Sinon, on ne va pas arriver à la repentance, on ne va pas arriver à l'humiliation vis-à-vis de Dieu. Et la deuxième partie de cette phase, de ce processus d'humiliation, c'est de se concentrer sur Dieu. Parce qu'il y a aussi des gens qui se concentrent sur eux et qui arrivent à dire « Ouais, j'ai dépendance de Dieu, je peux rien faire sans lui, je suis nul, je ne sers à rien. » Et finalement, ils restent à faire que ça et à se plaindre, à dire « je ». Et l'humilité, c'est tout le contraire. C'est d'abord se rendre compte de ça, de cette réalité. Mais une fois on s'est rendu compte, il faut arrêter de nous concentrer sur nous-mêmes. Ça, c'est pas de l'humilité. Il faut se concentrer sur Dieu pour arriver à savoir pourquoi on s'humilie et en face de qui on va s'humilier. Parce que sinon, ça sert à rien. Si on reste sur nous, sur nos débilités, sur nos péchés, on va devenir des malheureux. Mais il faut se concentrer sur lui, sur Dieu, pour comprendre ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il veut faire encore pour nous. Et sans cette deuxième phase de l'humiliation, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et pourquoi m'humilier? Pourquoi nous humilier? Et pourquoi nous humilier en face de Dieu, vis-à-vis de Dieu? Pourquoi? Bon, d'abord, dans cette première phase qu'on a parlé, je reviens. Quand on se concentre sur nous, on comprend ce qu'on est et qu'on est repenti de nos péchés et on demande pardon à Dieu, c'est là où l'on obtient le salut. Sans cette phase-là, on ne va pas être sauvé. Ce n'est pas par nos efforts qu'on va se faire sauver. Donc c'est nécessaire pour avoir le salut, de s'humilier, de se concentrer sur nous et de reconnaître nos péchés. Mais deuxièmement, il faut se concentrer sur Dieu parce que sans ça, on ne va pas avoir une communion, une relation personnelle avec Dieu. Parce qu'on parle beaucoup de ce qui est à la base de la relation avec Dieu. Et on le dit beaucoup, c'est la prière et c'est la lecture de la parole de Dieu, n'est-ce pas? On dit, si je veux parler à Dieu, je prie. Si je veux écouter sa voix, il y a plusieurs façons, mais surtout, on a sa parole. Mais quand on va voir sa parole, ça, c'est clair que c'est nécessaire et c'est à la base. Mais le socle de tout ça, c'est l'humilité. Et on va voir trois textes qui nous montrent ça, que sans l'humilité, ça ne sert à rien de lire la parole de Dieu, ça ne sert à rien de prier. On va le voir. Et deuxième livre des Chroniques, chapitre 7 et verset 14. Deuxième livre de Chroniques, chapitre 7, verset 14. Il est écrit, c'est le pacte de l'Éternel avec Salomon. Deuxième livre de Chroniques, 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, d'abord, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. D'ici mon peuple s'humilie. Ça, l'humiliation, je ne veux pas écouter sa prière. Il ne dit pas juste s'il prie, s'il cherche ma face. Il dit s'il s'humilie d'abord. Un autre exemple, c'est Daniel 10, chapitre 10, verset 12. Si vous voulez bien chercher avec moi. Daniel, chapitre 10, verset 12. Chapitre 10, verset 12 dit « Il me dit, Daniel, ne crains rien, Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Il dit, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, c'est alors que tes paroles ont été entendues. Il ne dit pas que tu n'avais pas prié, c'est qu'à partir du moment où tu t'es humilié, c'est alors que j'ai entendu tes paroles. Donc on voit bien l'importance de l'humiliation, de se concentrer sur Dieu pour qu'il entende nos prières. Et inversement, on disait que la lecture de la parole sans l'humiliation, ça ne sert à rien non plus. On va voir l'exemple qui se trouve au livre des psaumes, chapitre 119 et versets 67 jusqu'au 71. Donc, psaume 119. Versets 67 jusqu'au 71. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Les orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde tout mon cœur tes ordonnances. Leur corps est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Donc, c'est l'humiliation qui a permis les psaumistes d'apprendre les statuts, verset 71, et aussi d'observer la parole de Dieu, verset 67. Sans ça, c'est très compliqué. Hein. On va lire la parole, mais on ne va pas savoir pourquoi il faut l'apprendre, il faut l'observer, il faut la garder. Si on n'est pas capable de se concentrer sur Dieu, c'est de savoir qui c'est qui l'a écrit et pourquoi il l'a écrit. Donc juste pour conclure, je voulais lire un verset qui se trouve au chapitre 7 de cette livre de Michée, chapitre 7, versets 18 et 19, bon, deux versets, qui donnent de l'espoir. Parce que peut-être aujourd'hui, ce matin, tu dis, ouf, c'était dur, hein, parce qu'on peut dire, on est loin de ça, on pratique pas la justice de Dieu, on peut dire, je pratique pas la miséricorde, je m'humilie pas assez devant Dieu, et qu'est-ce que je dois faire, parce que peut-être c'est trop tard, on peut penser, non? Et on voit bien ce qu'il dit, le verset 18 et 19 du chapitre 7 du livre de Michée. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés? Et ça, il le dit après d'avoir dit tout ça, si dur. Hein. Du reste de ton héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Dieu, il continue à se faire plaisir, à pratiquer la miséricorde. Et ce matin, si on est loin de ça, si on est loin de faire ça, ce que Dieu nous demande, il se fait encore plaisir de nous donner l'opportunité de revenir vers lui. Il dit, il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Quel Dieu, comme il dit au verset 18 au début, quel Dieu est semblable à toi, n'est-ce pas? Et juste pour finir avec l'exemple de Jésus, il a fait tout ça, n'est-ce pas? Il a pratiqué la justice. Il a pratiqué la justice, hein. Même s'il est venu pour nous sauver, il est venu pour accomplir la loi aussi. Il a pratiqué, il a aimé la miséricorde jusqu'au point de prendre nos péchés sur la croix. Et il s'est humilié devant Dieu. Il était Dieu même, mais il a écouté son Père, il a fait ce qu'il lui avait demandé. Donc quel beau exemple pour nous. Et j'espère que Dieu nous aide à regarder toujours cet exemple qui est si puissant, et à savoir que Dieu, aujourd'hui, continue à avoir miséricorde de nous et qu'il nous aide à changer et accomplir ce qu'il a prévu pour nos vies. Que Dieu vous bénisse. Amen.